Alors, nous sommes en ligne avec Yvette, et Yvette nous appelle pour un sujet grave, sur lequel j'aimerais bien aussi vous entendre, parce que c'est un fléau, qui est, je crois, l'alcoolisme. Bonsoir, très chère Yvette.
Bonsoir.
Vous nous entendez ?
Oui, je vous entends très bien, moi.
Et alors, ce soir, je suis sur la terrasse d'Europe 1 avec des jeunes auditeurs qui ont voulu me rejoindre, alors je les ai proposé de le faire. Et donc, si ça ne vous dérange pas, ils vous entendent également.
D'accord.
Voilà, je vais vous prévenir.
Je suis face à des discours bien riches par rapport aux discours que je vais...
Oh, je vous en prie, Yvette, ici il n'y a pas de hiérarchie entre les discours. Ce n'est pas une émission de discours, c'est une émission de parole, ce qui n'a rien à voir. Nous vous écoutons, ma chère Yvette.
Bien, bon, ben moi, je vais écrire très rapidement ma situation. J'ai 72 ans, je suis jeune retraitée.
Oui.
Et j'ai une vie que je pourrais décrire comme étant une vie bien, une belle vie.
Oui.
Voilà. Et je suis confrontée à l'alcoolisme.
Intervenez quand vous voulez.
L'alcoolisme du soir. Quelque chose que j'explique pas. J'ai un besoin fort le soir de vider ma tête.
Mmh.
Et ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas, quoi. Ça interrompt mes soirées. Je suis plus capable de regarder des émissions qui m'intéressent, parce que je suis quelqu'un de très intéressé dans la vie.
Mmh.
Et voilà, j'aimerais pouvoir échanger avec des personnes qui ont les mêmes problèmes et qui... Mmh. Et qui pourrait m'apporter peut-être des indices.
On a reçu ici à l'antenne des gens qui avaient ce problème, et on en parle souvent, c'est un problème difficile, délicat, intéressant, et qui révèle beaucoup de choses chez l'être humain. Et donc moi, c'est un problème qui m'a toujours vraiment passionné. Intellectuellement, c'est vrai que savoir pourquoi quelqu'un veut s'oublier à un moment donné de la journée, c'est toujours... vraiment surprenant, vous voyez ce que je veux dire. Mais la question que je voulais vous poser, c'est depuis quand, ma chère Yvette, êtes-vous tombée en fait dans ce penchant? Depuis quand est-ce que vous avez pris cette habitude?
Alors, j'ai déjà eu ce souci-là il y a quelques années, alors que je m'étais séparée de mon mari, et je me retrouvais seule avec mes filles, et donc c'était une épreuve qu'il fallait surmonter. Que j'ai surmonté avec force parce que j'avais travaillé tous les jours, même si la veille je n'étais pas belle. J'assumais mes responsabilités, même face tout ce qui pouvait se passer pour mes enfants, les faire grandir, aller vers vers les structures où elles devaient, dans les écoles où elles devaient rentrer, faire une belle face et puis bonne figure et puis avoir les pieds sur terre pour pouvoir aussi être cohérente. Et puis bon, ça s'est passé. Et puis il y a 8 mois, j'ai fait une dépression.
Oui. Yvette, bonsoir Yvette.
Oui.
Excusez-moi, je vous interromps, mais je suis assez touché.
Tu te présentes ?
Je m'appelle Victor, donc je suis étudiant en lettres. Et je suis très touché par votre témoignage, parce que ma grand-mère souffre d'un alcoolisme pathologique que j'ai vu, enfin, ça fait maintenant plus de 20 ans. Donc c'est quelque chose que je connais bien et dont j'ai moi-même très peur et voilà, quelque chose d'assez difficile à comprendre parfois aussi, hein, parce que bon, on voit ces personnes qui nous sont chères et qui essaient de s'oublier dans l'alcool. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est comment est-ce que vous avez commencé à boire et est-ce que vous avez senti à un moment que vous perdiez le contrôle ?
Le contrôle ?
Oui.
Je perds pas vraiment le contrôle. C'est-à-dire que
vous voulez peut-être demander à partir de quel moment vous n'avez plus pu vous empêcher de boire ça, qui voulait dire Victor. Quand est-ce que ça a commencé à être irrépressible?
Ben, je vous dis, là, vraiment, il y a 6 mois, après un épisode dépressif, où j'ai été soignée, mais une véritable période dépressive, hein, c'est-à-dire que je perds des pieds, j'étais rentrée dans une grande tristesse, incapable de remonter la pente. J'ai été hospitalisée pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, j'ai voulu sortir. Le corps médical a estimé que j'étais capable de sortir. Et là, avec les médicaments, je me suis mise à boire.
Et vous êtes toujours entourée par votre famille ? Enfin, vous êtes...
Oui.
Oui, toujours. Et donc, ouais. Et quelle est la réaction de votre famille face à la consommation d'alcool ? Est-ce qu'ils essaient de vous restreindre ? Enfin, comment est-ce que vous pouvez interagir encore avec votre famille ?
Alors, ma famille est hyper bienveillante. J'ai des enfants qui l'ont constaté, parce que je me cache de rien, moi. Je ne suis pas quelqu'un qui me camoufle, hein. Qui me disent simplement, mes filles, parce que j'ai 2 filles, dont une qui est complètement abstinente, elle qui ne boit pas du tout, qui elle, me dit, mais maman, pourquoi tu bois ? Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Voilà. Et mon aînée, qui est une enfant beaucoup plus festive, mais qui attend un bébé, elle me dit, mais maman, t'es fatiguée, je vois bien qu'il y a des choses qui vont pas, ton corps, tu me dis que t'es fatiguée, que t'as du mal à te lever le matin et tout, tu fais plein de choses, mais en même temps, est-ce que tu devrais pas voir du côté de l'hygiène de vie?
Oui. Actuellement, voilà. quelle est votre consommation d'alcool pour qu'on sache à peu près
Ma consommation d'alcool, je suis capable de boire jusqu'à 10 bières par jour.
D'accord.
Par soir.
D'accord. Julien ?
Ouais,
et ensuite, Julien, tu veux poser une question à Yvette ?
J'avais deux questions.
Et ensuite, Edmond.
Parce que je pense que déjà, merci beaucoup d'appeler et de vous ouvrir comme ça, parce que je pense que votre témoignage pourra aider beaucoup, beaucoup de gens.
Ah, ils étaient très dissipés sur le toit, Yvette, mais depuis votre témoignage...
Et notamment les plus jeunes. Et du coup, c'est pour ça que je vais poser cette question qui est, je pense, difficile. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais... comment ça... Bon, c'est deux sous-questions. La première, c'est comment ça se manifeste chez vous ? À quel moment vous ressentez ce besoin de boire ? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ? Quelque chose qui fait que... Vous dites, bon, un verre et puis après vous perdez le fil. Comment vous le ressentez ? Est-ce que c'est quelque chose de physique, un sentiment ? Et ma deuxième question, c'est à quel moment vous avez pris conscience ? Parce qu'une addiction, là où c'est dur, c'est qu'on a conscience qu'on est addict. Et c'est peut-être la partie la plus dure, je pense, dans l'addiction. Et à quel moment vous avez compris, en regardant vos verres ou les bouteilles, je ne sais pas, vous dites, là, ok, là, là peut-être j'ai basculé dans quelque chose.
Ben, c'est simple, ça me dégoûte. Il y a un moment où j'ai pas envie de boire, mais je continue à boire.
Pour
arriver à une espèce d'état de non-conscience, en gros.
Et comment ça se déclenche ? C'est à quel moment dans la journée ? Je veux pas rentrer trop dans votre intimité, mais c'est...
Mais j'ai pas honte.
C'est pas une question de honte, mais c'est... c'est un besoin physique, quelque chose qui vous dit là j'en peux plus. Enfin, c'est un exutoire en fait, c'est un peu dans le sens bataillon où c'est pour repartir de zéro, c'est ça ?
Ouais, c'est comme un reset. J'arrive, je suis en fin de journée et puis je sais pas pourquoi, j'ai envie que. Attendez, pour répondre très clairement. C'est comme si en fait je voulais faire abstraction de tout. De tout.
Edmond, tu voulais réagir ?
Mais c'est vrai que Julien a beaucoup, en posant cette question, il a un peu posé la question que je voulais poser. C'était une question un peu naïve. Vraiment, je voulais me demander s'il y avait une sorte de rituel, si vous aviez un rituel.
Alors moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous, vous êtes jeunes tous, est-ce que dans votre entourage, dans les écoles, les grandes écoles, en prépa, à la fac, etc., vous avez vu des catastrophes liées à l'alcool? Ah, Lucie, et nous avons en ligne Gérard qui veut réagir. Mais Gérard, bonsoir, mais il y a Lucie qui voudrait apporter un témoignage.
Moi je pense d'abord que personnellement j'ai connu pas mal de gens dans mon entourage qui sont tombés dans l'alcool et qui peuvent plus forcément s'en remettre, mais je pense que c'est aussi une question de transfert, c'est-à-dire qu'on transfère nos émotions, ou par exemple j'ai connu beaucoup d'amis aussi qui se droguaient énormément, qui n'ont pas réussi à s'en sortir, et au moment où ils s'en sont sortis ils sont sombrés dans l'alcool. C'est un transfert en fait, c'est-à-dire que c'est des émotions qu'on n'arrive pas à sortir et du coup on les transfère dans quelque chose qui pourra nous faire en fait juste oublier nos émotions.
D'accord.
Et en fait, juste, c'est une question de transfert. Et parfois, on ne peut pas forcément s'en rendre compte sur le moment, de se dire, OK, j'ai arrêté ça, maintenant je prends ça, mais je ne m'en rends pas compte. Mais en fait, c'est juste un transfert qu'on veut faire de nos émotions sur autre chose. Après, moi, j'ai été aussi dans un milieu où il y a eu beaucoup de transferts de plein de choses. J'ai travaillé dans la restauration, donc c'est vrai que ce n'est pas facile forcément pour tous les jours pour tout le monde. Et c'est vrai que l'alcool, c'est quand même un truc quotidien, en fait. Et c'est quelque chose qu'on aura toujours, en fait. C'est-à-dire que c'est la chose la plus facile à obtenir
Gérard,
aujourd'hui.
Gérard, vous êtes là, Gérard?
Oui, je l'écoute.
Je crois que vous avez un message positif à délivrer et je suis avec des jeunes amis qui vont vous poser, vous assaillir de questions, donc ils vont vous interroger.
Oh,
on est sur le toit d'Europe 1.
Oh, bah écoutez, si vous êtes sur le toit, c'est que...
Bienvenue parmi nous et nous vous écoutons.
Voilà, écoutez, je me permettais ce soir, parce que j'ai écouté justement ce sujet de l'alcoolisme. Alors je me présente, je suis Gérard, j'ai 70 ans, je suis un alcoolique, mais la particularité, je suis un alcoolique abstinent. Ça veut dire qu'en fait, quand on est alcoolique, dès l'instant où on commence à avoir compris qu'on a besoin de cette on est dépendant, comme celui qui fume, et qui a besoin toujours de sa drogue, on devient dépendant, on est obligé d'avoir sa dose d'alcool tous les jours. On ne dit jamais à un jeune à 20 ans que tu es un alcoolique. Pourquoi ? Parce que c'est festif. En France, on a une culture de l'alcool. Chaque fois qu'il y a une fête, chaque fois qu'il y a un anniversaire, chaque fois, c'est une culture qui est en France, que l'alcool est partout, donc c'est le côté festif. Et à 20 ans, on ne dira jamais à un jeune qui est un alcoolique. Par contre, bien souvent, toutes ces addictions, elles prennent naissance, ce que l'on appelle, elles prennent naissance souvent à l'adolescence. Moi, ça n'a pas été mon cas à l'adolescence, mais ça a été beaucoup plus tard, vers 20 ans, que je me suis inséré, l'alcool est rentré dans ma vie, parce que j'avais des collègues, des amis à moi, des copains,
j'ai quand même buvaient. J'ai quand même l'impression que
peut-être d'abord
Marguerite. Ouais. J'ai quand même l'impression que chez les jeunes, en tout cas, enfin et de manière générale, l'addiction à la cigarette est beaucoup plus tolérée et est dans l'imaginaire collectif est beaucoup plus acceptée en tout cas que l'alcoolisme.
Je suis pas forcément d'accord. Moi, social, j'adore les diabolomantes et quand je prends un diabolomante en bar.
Pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît.
C'est Yvette qui intervient.
Oui.
On ne perd pas pied avec le tabac. Avec l'alcool, on perd pied.
Bien sûr.
Voilà. Oui.
Ça reste deux addictions quand même.
Ouais.
Oui. Voilà. Et moi, c'est vrai que l'alcool est une drogue normalement. Bah, et c'est vrai que c'est pas catégorisé parmi les drogues.
Alors, c'est pas catégorisé comme parmi les drogues, mais malgré tout, il faut savoir que c'est un psychotrope et un des plus forts psychotropes qui existent. Pour vous donner un ordre d'idée pour savoir l'importance de vous dire. La désintoxication de l'alcool pour le corps, c'est au même niveau que l'héroïne. Pour vous dire à quel niveau, c'est très difficile de s'en détacher. Alors, bien souvent, les gens vont dire « Oh, ben celui-ci, il n'a pas de volonté, il ne peut pas s'arrêter de boire. » D'abord, je vais vous dire, ce mot « volonté » ne doit pas être entendu. Il faut d'abord, quand la personne commence à prendre conscience, bien souvent par des dégâts extérieurs, c'est-à-dire que bien souvent, comme disait cette dame qui est intervenue, d'abord le problème de l'alcool, ça modifie le caractère. Ça vient intervenir sur le caractère et au niveau du système nerveux. C'est différent que la cigarette. Et c'est vrai qu'on tolérera plus facilement la cigarette que l'alcool, mais il faut quand même reconnaître que le côté festif, chez les jeunes, et tout le monde ne peut pas dire ça, c'est vrai, la culture de l'alcool en France, c'est une culture. Hein. Et donc l'alcool, il est partout, il est présent partout, dans toutes les fêtes et tout, partout.
Vous avez...
Alors on commence à boire jeune, pour se libérer et pour se désinhiber souvent.
Et puis pour s'intégrer aussi, hein. C'est très important. Il y a des rituels d'intégration passent par boire de l'alcool. Hein.
Ouais. Non, absolument.
Et puis ce qui est aussi très compliqué et justement on ne se rend pas toujours compte que l'on perd contrôle, c'est vous savez tous ces verres qu'on est amené à prendre, toutes ces soirées qu'on enchaîne.
Voilà.
Et qui finalement nous amène à une forme de dépense. Après, effectivement, il y a boire avec des personnes et boire seul, ce qui est aussi un basculement, j'imagine, assez important.
Oui.
Mais je trouve que vos témoignages sont extrêmement intéressants parce qu'on a parfois effectivement du mal avec un regard un peu extérieur, hors addiction, même si on est addict à la cigarette. Voilà, vous avez tout à fait raison, ça n'a rien à voir. Ce sont deux mondes, deux addictions totalement distinctes. On a du mal à se dire qu'on ne puisse pas se passer d'un verre d'alcool, c'est-à-dire que voilà, très concrètement, on pourrait dire bon voilà,
je vais vous expliquer. La personne qui est intervenue, la femme qui est intervenue, excusez-moi, je me rappelle pas son prénom, parce que j'ai intervenu tout de suite, j'ai appelé au téléphone parce que je voulais intervenir. Alors quand on a ces temps, alors vous savez l'alcool, quand on consomme pendant des années, les doses vont augmenter et puis ces doses, on les supporte. C'est-à-dire quelqu'un qui est en jeune qui est jeune à 20 ans, deux verres, il va à plus, il va commencer déjà à délirer et puis être sous. Et puis plus vous consommez de l'alcool, plus vous tenez à l'alcool. D'ailleurs, des publicités ont été bien faites là-dessus. Et ensuite, vous arrivez à un âge où cet alcool, ben, comme vous avez, vous sortez du travail, la personne va prendre 6,5. Il faut qu'il prenne 6,5. C'est 6,5, il n'est pas sous, mais il rentre chez lui, il est impeccable. Et alors après, quand un jour on finit par comprendre qu'on est addict, on est dépendant. La dépendance, là où c'est le plus dur, c'est là où on va rencontrer ce que l'on appelle le craving. Et cette personne tout à l'heure qui disait, c'est l'envie, le craving, c'est l'envie irrésistible de boire. C'est-à-dire d'un seul coup, quand vous vous arrêtez de consommer, ce craving, on peut le retrouver aussi dans la dépendance de la cigarette quand vous vous arrêtez.
Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a aussi une forme de honte qui mène à boire? C'est-à-dire qu'une fois qu'on se rend compte qu'on est addict à quelque chose, est-ce que le sentiment de honte qui peut survenir ensuite pousse à boire justement pour oublier la honte et donc à boire complètement...
Non, pas du tout, parce que il n'y a pas de honte à boire. Bien souvent, la personne, il lui faut sa dose et vous finissez, parce que c'est très agréable d'ailleurs de faire une fête et de boire et de se mettre dans des états seconds avec les autres. Mais, par contre, arrivé à un certain âge, vous finissez par avoir besoin de votre dose et vous buvez tout seul. Parce que vous avez besoin de cette dose. Et votre corps et le système nerveux, vous êtes dépendant et vous avez besoin de cette dose.
Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on est tous ensemble réunis, donc on consomme de l'alcool, modérément bien sûr. Parfois non, parfois il y a des soirées qui font qu'on consomme un peu plus. Et on est tous exposés à l'alcoolisme. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand on a tous un regard, même ce soir, on a un regard critique sur la chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un double jeu. Une sorte d'entre-deux intellectuel qui fait que, et surtout vous, hein, vous deux, qui vous exprimez beaucoup sur votre propre addiction, ou enfin, sur l'addiction en général, sur le fait qu'on puisse se rendre addict facilement, vous avez un regard critique, on a tous un regard critique, et en même temps, il y a ce moment où on se laisse aller, et donc cet entre-deux est assez étonnant, c'est comme s'il y avait un pré-alcoolisme, un alcoolisme d'avant la consommation, un alcoolisme d'après,
ou alors
un moment où ce moment qui fait que on n'est plus soi, on réfléchit sur ce soi. Voilà.
Alors, il y a un sujet, derrière l'alcoolisme, j'étais intervenu avec Sabine Marin justement à ce sujet-là. L'alcoolisme, il faut gratter, quand on s'arrête de boire, il y a des centres d'addiction. Et il y a des psychologues spécialisés en addiction, il y a des psychiatres spécialisés en addiction. Il faut savoir que derrière l'alcoolisme, je vais vous dire un mot qui est très simple, il y a de la misère sociale, il y a de la misère psychologique. Il y a des problèmes psychologiques qui sont d'un ordre que j'irais dire que les sujets qui deviennent addicts ont commencé à boire et le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le cerveau, il reçoit ce picotrope.
Je crois que Yvette voulait s'exprimer sur le sujet.
Je suis pas dans ce schéma-là en fait.
Pourquoi?
Je suis plutôt dans. Enfin, je vais vous expliquer en fait. le soir vers 18h30, 18, fin de journée en fait, j'ai besoin de lâcher prise.
Oui. Mais j'ai compris.
Lâcher prise, donc je pour lâcher prise, j'ai trouvé, enfin, malheureusement, c'est l'alcool qui me permet de lâcher prise, mais qui me ramène très vite à une mauvaise réalité. C'est-à-dire je fatigue et je vois bien que je suis plus en phase, je suis plus, j'ai plus envie de regarder des sujets qui m'intéressent. Je pense être une personne un petit peu intellectuelle.
Et Eliette, est-ce que je pourrais justement réagir par rapport à ça? Enfin, moi, du coup, je suis Edouard, j'interviens. Et du coup, moi, j'ai eu une sorte de, comment dire, d'addiction un peu. Alors, c'est pas vraiment une addiction aussi grave, mais moi, j'ai eu de la boulimie. Et enfin, en fait, je vois que dans les discours que vous tenez, en fait, il y a une sorte d'opposition entre est-ce que c'est un mal seulement qui vient de nous, ou est-ce qu'il vient d'une sorte de, en quelque sorte d'une solitude, ou est-ce que c'est une sorte d'injonction sociale aussi de boire, par exemple. Et moi, j'ai eu un peu de boulimie à un certain moment, et je m'en suis rendu compte que ça venait beaucoup en fait de ma solitude, par exemple. Donc ça venait pas d'une sorte d'injonction sociale, et que en effet, quand j'avais la boulimie, en fait, moi, j'ai essayé totalement de m'oublier moi-même, vraiment de me gaver pour m'oublier, et c'était assez toxique. Voilà, je sais pas si ça apporte grand chose, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, donc quelque chose de plus psychologique.
Je pourrais faire une parallèle, mais c'est pas pour m'oublier moi, c'est pour oublier peut-être l'environnement tout court, pas mon environnement. Parce que mon environnement proche, il est sain, il est bien, il est bien construit. Je pense que ce que j'ai construit dans ma vie, de mes enfants, mon mari, j'ai rien pour être malheureuse. Simplement, il y a quelque chose que je n'explique pas, qui me dépasse, peut-être la réalité me fait peur. Du monde, la réalité de...
Moi, c'était un peu pareil, c'est que, comment dire, les autres, justement, en fait, c'était d'autant plus dur de réaliser que les autres, ils n'avaient pas de problème par rapport à ça. Et donc, du coup, moi... je me sentais justement dans une solitude, mais vraiment angoissante, parce qu'en fait, je me retrouvais quasiment en fait à voler en fait la nourriture en fait de mes hôtes dans les placards à des horaires complètement indécents, vraiment à 2h du mat ou des choses comme ça. Et du coup, enfin, vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, enfin, comment ils vont me voir ou des choses comme ça. Et donc du coup, je me sentais d'autant plus à part. Donc, enfin, le fait même qu'en fait que les autres trouvent ça, enfin, qu'il y ait une sorte de normalité en fait, même ça en fait, c'est assez oppressant. C'est pas pour non plus me victimiser, mais voilà, c'était pour faire une sorte de parallèle.
Ouais, je comprends complètement.
Je crois que Marguerite a une question.
Moi, je me demandais de mon côté si dans votre vie vous aviez déjà traversé d'autres addictions. Peut-être est-ce que vous avez une tendance? Est-ce que vous avez, quand vous étiez jeune, peut-être à la cigarette ou d'autres choses?
Oui.
Alors, moi, j'étais festive. Moi, j'étais hyper festive, mais par contre, jeune maman, je faisais la fête le week-end, le vendredi soir. Et d'ailleurs, le père de mes filles me disait, mais comment tu fais pour uniquement boire le vendredi soir et puis après le reste de... c'est-à-dire le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, être hyper saine, et le vendredi, te mettre des mines, entre guillemets, comme ça, quoi. C'était un peu moins...
Ça, c'est des montées d'anxiété qui se font chez vous, et comme beaucoup de gens, vous savez, le soir, quand arrive la nuit arrive, c'est souvent que les gens sont plus mal, c'est le soir, l'anxiété arrive. Alors, ce qui est conseillé dans ce que vous êtes en train d'expliquer, ce qui vous arrive et que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, moi, je pense qu'il est intéressant d'en parler, de voir des psychologues spécialisés d'addiction pour retrouver les problématiques chez vous qui vous poussent, justement. Parce qu'en fait, comme l'anxiété, elle est soulagée par l'alcool. L'alcool soulage votre anxiété. C'est un anxiolytique, l'alcool. Mais ce psychotrope... il vaudrait mieux avoir une consommation, il faudrait faire un travail là-dessus, voilà ce que je veux dire.
Oui, je suis complètement d'accord. Parce que le lendemain, le lendemain matin, je suis très malheureuse parce que je suis pas bien et qu'il faut recommencer la journée et qu'il faut prendre sur soi. Il faut voilà, le corps n'accuse pas comme ça, n'accuse pas à 62 ans comme il accuse à 30 ou 40 ans. Hein.
Je pense que c'est un sujet, Yann. Parce que je ne sais pas si ça s'arrête à une heure, l'antenne, mais je pense que c'est un sujet qui serait intéressant à consacrer un soir sur l'alcoolisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ce problème-là, il y a beaucoup de gens qui ont ces problèmes d'alcool, et même les médecins ne jouent pas un rôle très... ils ne sont pas francs jeu, parce que tous les médecins, par rapport à leurs clients, voient justement dans les analyses de sang des problématiques d'alcool chez leurs patients. Mais ce n'est pas toujours facile d'en parler.
Merci beaucoup, merci à tous, merci à mes jeunes amis qui sont arrivés. Moi, je vous propose quelque chose. On va appeler ça le club de la terrasse, et une fois par mois, ceux parmi vous qui veulent revenir viendront faire l'émission avec moi.
Mais non.
Si, je m'y engage.
Je viens depuis la Suisse. Oui.
Une fois par mois, le club de la terrasse, dont vous serez donc les fondateurs, sévira. Voilà, donc je m'engage. Vous fondez le club de la terrasse. Il est 1h sur Europe 1. Merci de nous avoir suivis. Je vous embrasse tous. À bientôt.